Avec Calvin, on quitte le début de la réforme. On a quelquefois dans l'idée qu'il y a la première génération Luther-Calvin, puis il y a la suite après. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a la première génération Luther-Zwingli, les anabaptistes, et puis Calvin, c'est déjà finalement le temps de l'institutionnalisation, en quelque sorte, de la réforme, dans une mise en forme structurée. Donc c'est déjà la deuxième génération, celle qui arrive, on pourrait dire, après la rupture, même si Calvin vient du catholicisme, hein. Mais le protestantisme est déjà présent avant lui, il existe. Calvin n'a jamais été moine, n'a jamais été prêtre, et sa formation première est juridique. Et c'est lui qui, avec l'institution chrétienne, va donner aux protestants leur première somme théologique. Luther n'a pas écrit de dogmatique, on pourrait dire, hein, d'œuvre majeure. Il a écrit beaucoup de choses, mais beaucoup de petites choses, énormément de petites choses. Mélenchon a déjà fait aussi quelque chose. Mais là, je dirais, avec l'institution chrétienne, on a une œuvre qui va accompagner Calvin tout au long de sa vie. C'est-à-dire que, édition après édition, il va le rééditer en élargissant le livre, et ça va aboutir à l'institution chrétienne, donc qu'on connaît avec les quatre gros volumes. Et selon leur auteur, au fond, ces textes sont une aide pour bien comprendre et bien lire l'Écriture. Alors, il me semble que par rapport à Luther, on pourrait noter deux différences qui pourront peut-être paraître paradoxales. Calvin est concerné par toute l'Écriture. Et une formule qui revient assez souvent chez lui, c'est tout le conseil de Dieu. Il veut transmettre, au fond, toute la révélation de Dieu, tout le conseil de Dieu. Alors qu'on pourrait dire que Luther était fondamentalement intéressé par l'Évangile, ce qui porte le Christ. Hein? Dans quelques livres bibliques que ce soit. Et à partir de là, il pouvait aller même jusqu'à mettre en doute le caractère canonique de l'épître de Jacques, considérée comme une épître de paille, parce que, voilà, elle ne parlait pas suffisamment du Christ. Ce qui veut dire que Calvin, qui reçoit toute la Bible comme inspirée, qui a ce caractère aussi plus systématique, ce sont deux personnalités complètement différentes. Hein. Autant, je vous parlais d'un volcan, en parlant de Luther, je ne sais pas ce qu'il faut dire pour Calvin, mais ce n'est pas un volcan. Hein. Oui, tranquille, comme vous dites. En tout cas, c'est quelqu'un de beaucoup plus rigoureux, peut-être de beaucoup plus latin à certains égards, hein, mais je ne sais pas. Et alors, ce qu'il souhaite, au fond, c'est de rendre compte de la totalité de la révélation biblique d'une manière systématique. D'où, chez Calvin, un caractère moins dialectique. Et paradoxe, c'est pas son truc. Autant Luther va affirmer ça et ça en même temps, et puis il faut toujours garder en tension, autant chez Calvin, il va y avoir un caractère beaucoup plus cohérent, beaucoup plus systématique, au risque peut-être, au fond, de faire entrer, mais ça, je dis ça en théologie, c'est très fréquent, hein, au risque de faire entrer l'ensemble de la révélation biblique dans un schéma clair, même si ce schéma est peut-être plus clair que la révélation elle-même, mais si on arrange un peu, je dirais, certaines choses pour que ça rentre dans le système. Mais rassurez-vous, les adversaires de Calvin, je trouve un peu la même chose en sens inverse. Donc, je dis, voilà, c'est très court. Deuxième point, très important aussi, je crois, si vous lisez l'institution chrétienne, c'est encore plus frappant que chez Luther, il n'arrête pas de citer les pères de l'Église. Il n'arrête pas de citer les auteurs anciens, les auteurs médiévaux, etc. Calvin, beaucoup plus que Luther, je dis, hein, beaucoup plus. Donc on est avec Calvin devant une théologie qui ne se prétend pas nouvelle, il n'invente pas quelque chose de radicalement neuf dans son esprit, hein, ni même d'une certaine manière en rupture avec la tradition. Elle prétend, au contraire, cette démarche, assumer la tradition et en montrer le sens authentique. Le fondement unique, bien sûr, c'est la Bible. Hein, il ne va pas citer les pères de l'Église comme fondement de sa pensée, mais une fois que sa pensée veut être fondée sur la Bible, au fond, il n'arrête pas de citer les auteurs médiévaux, les pères de l'Église, etc., pour montrer justement la pensée de l'histoire de l'Église, la pensée de la théologie, depuis le début jusqu'au moment où il écrit. Donc, au fond, sa démarche, c'est que, d'une certaine manière, la réforme est plus catholique que l'Église qui porte abusivement le nom de catholique. Hein, la réforme est plus fidèle à la tradition, à la bonne tradition de l'Église. Alors, bien sûr, à côté de l'institution chrétienne, Calvin a écrit de très nombreux ouvrages de circonstances pour aider à la réforme, hein, de très nombreux commentaires bibliques. Et, alors bien sûr, l'institution chrétienne qui va s'augmenter au fur et à mesure. Et si vous achetez l'institution chrétienne, au fond, vous avez plusieurs éditions qui correspondent à des périodes différentes. Hein, des éditions plus brèves, des éditions plus complètes. Celle qu'on connaît en général, qui est de Labor et Fides, c'est l'état final. Hein, c'est l'ensemble du texte. Alors, on peut dire qu'on va trouver peu de textes de Calvin qui concerne directement et explicitement la spiritualité. C'est comme Luther, je dirais. Il n'est pas d'abord un spirituel qui enseigne des gens, il est un réformateur qui fonde. Donc, beaucoup de ses écrits répondent aux besoins. Son institution chrétienne répond au fond à l'ensemble de la révélation biblique, donc ce n'est pas la spiritualité en particulier. Mais, s'il fallait mettre à part un texte, un peu comme j'ai mis à part de manière un peu arbitraire, hein, vous rappelez avec Luther, le traité de la liberté du chrétien, s'il fallait mettre à part un texte, il y a dans l'institution chrétienne, au livre 3, les chapitres 6 à 10, qui ont souvent été édités à part sous le titre de traité de la vie chrétienne. Et donc dès l'époque de Calvin, ça a été édité assez fréquemment, donc à part. Et la dernière édition date d'il y a quelques années, peut-être en 2000, chez Excelsis, hein, où vous avez donc un petit livre, on pourrait dire, qui est le traité de la vie chrétienne. Traité de spiritualité, et c'est lui que nous suivrons principalement. Vous pouvez le trouver si vous hésitez à plonger dans l'institution chrétienne elle-même. Hein. Vous avez donc chez Excelsis, dans la petite collection Apollos, ce texte qui est intéressant parce qu'il est traduit du latin, donc paradoxalement il est plus facile à comprendre parce qu'il est entièrement en français moderne, donc complètement moderne. Il a un titre tout à fait, je trouve, je cherche un mot gentil pour dire ce que je pense qui n'est pas gentil, mais ça s'appelle une spiritualité à visage humain, ce que je trouve un titre un peu, voilà, on pourrait dire ça de tellement tellement de choses que ça. Mais voilà, bref, et après le livre d'or de la vie chrétienne. Mais donc, en dehors du titre, qui n'est pas de Calvin, rassurez-vous, je crois que le texte est intéressant. Alors, la première partie, la première chose que je voudrais aborder, c'est quelque chose qui est typique de la spiritualité réformée, la spiritualité de Calvin, du protestantisme en général, mais Calvin tout particulièrement, c'est l'accent sur l'incapacité de l'homme, de l'être humain, à faire le bien. Hein, je pense que les plus âgés parmi nous, et tous ceux qui ont été ou sont réformés, ont quelque part dans la tête la confession des péchés, incapables par nous-mêmes de faire le bien, transgressant tous les jours et de maintes manières tes cinq commandements, entraînant sur nous la... Voilà. Si on médite la totalité des trucs, à la fin, il reste un petit tas de cendres. Voilà. Donc cette insistance, hein, sur les conséquences du péché, c'est en fait une manière de tout centrer sur Dieu lui-même et sur sa gloire. Il y a une idée. Il y a deux sensibilités là, et entre catholiques et protestants, c'est une vraie différence de sensibilité. Le protestantisme a eu tendance, c'était vrai de Luther, c'était aussi, voire encore plus vrai de Calvin, c'était pas vrai de Anabaptiste, c'était pas vrai de Wesley, mais a eu tendance à dire, au fond, tout ce qu'on va accorder à l'être humain, c'est autant qu'on enlève à Dieu. Donc il faut que l'être humain n'ait aucun mérite, aucune possibilité de salut, que rien. Tout est grâce, pure grâce, exclusivement grâce. Et donc, si jamais il mérite quoi que ce soit, de quoi que ce soit, de quoi que ce soit, alors c'est la gloire de Dieu qui en pâtit. Donc il faut annihiler en quelque sorte toute possibilité pour l'être humain de faire quelque chose pour donner gloire à Dieu. Alors le catholicisme va dire, mais c'est très pessimiste, etc. En fait, paradoxalement, ce n'est pas vraiment pessimiste. Parce que c'est un, je dirais, pour quelqu'un qui rentre dans cette démarche, ça a un caractère au contraire très libérateur, puisque rien ne dépend de mes mérites, de mes forces, je sais que j'en ai aucune, mais c'est tout est don de Dieu, donc il y a un caractère très libérateur. Mais alors, du côté catholique, vous avez une formule que vous trouvez par exemple chez beaucoup de catholiques, mais chez Thomas d'Aquin, etc., qui disent au fond, il n'est pas nécessaire de diminuer la création pour glorifier le Créateur. Hein, ce qui, voilà, deux sensibilités, là, elles sont différentes. Alors, avec Calvin, alors, la différence peut-être entre Calvin et Luther sur ce plan est la suivante. Les deux sont, si j'ose dire, aussi pessimistes, ou aussi convaincus en tout cas, de l'incapacité de la nature humaine de faire quoi que ce soit pour son salut. La différence, c'est que Luther pensait ça, mais avec Melanchthon, la tradition luthérienne va arrondir les angles et adoucir. Par exemple, Luther pense exactement la même chose que Calvin sur la prédestination. Hein. C'est vraiment, nous sommes sauvés que par Dieu seul, etc. etc. Mais la tradition luthérienne va, voilà, Melanchthon est beaucoup plus classique, va arrondir les angles. Vous avez des très beaux textes comme la formule de Concorde, qui est un grand texte confessionnel luthérien, qui va affirmer à la fois la responsabilité de l'homme et le... Alors qu'avec Calvin, la tradition réformée, je dirais théologique, réformée, ça ne veut pas dire toute l'Église réformée d'aujourd'hui, j'entends la tradition qui s'inspire directement de Calvin, va suivre complètement cette vision pessimiste et cet accent sur la prédestination, et ça va être vrai alors de toute l'orthodoxie calviniste, qu'elle soit réformée, mais ça va toucher les églises baptistes, les églises, le monde protestant très très largement. Donc c'est une manière, cet accent mis sur l'incapacité de l'homme de glorifier la grâce de Dieu en ôtant à l'homme toute possibilité de se glorifier. Et alors cet accent est manifeste dans l'épître au roi. Vous savez, l'institution chrétienne commence par une lettre adressée à François Ier. L'épître au roi, une dédicace. Et alors dans ce texte, c'est un très beau texte qui dit ceci, que vous devez avoir, voilà, je vous l'ai dit là. Quelle chose convient mieux à la foi que de nous reconnaître nus de toute vertu pour être vêtus de Dieu, vides de tout bien pour être emplis de lui, serfs du péché pour être délivrés de lui, aveugles pour être de lui illuminés, boiteux pour être de lui redressé, débile, malade donc, pour être de lui soutenu, de nous ôter toute manière de gloire afin que lui seul soit glorifié et nous en lui. Et ça, il me semble, c'est une vision, vous vous rappelez, qui pourrait s'enraciner dans toute une tradition. Là aussi, l'homme est néant. Vous savez, quand Eckhart dit, au fond, plus je me détache de moi-même, plus Dieu vient. Hein, je dois faire le vide, je dois n'être rien pour laisser la place à Dieu. Au fond, c'est la même chose. Hein. Et il y a en même temps, et c'est ça qu'un ami catholique, en général, souvent, qui ne connaît pas bien le protestantisme, a du mal à comprendre, je dirais, paradoxalement, il y a quelque chose de jubilatoire, je crois, dans ce dénigrement de la nature humaine. Parce que, voilà, moi je me rappelle les premières fois où un ami catholique ou un collègue catholique me dit ouais, mais il y a un pessimisme protestant, peut-être parce que par nature je ne suis pas fondamentalement pessimiste. J'ai mis du temps pour comprendre ce qu'il voulait dire, parce que je ne voyais pas ce qu'il y avait de pessimisme, puisque le fait de dire tout est grâce, pour moi c'est plutôt jubilatoire et optimiste. Donc voilà, mais là effectivement il y a une vraie différence, et je crois que chez Calvin c'est ça, c'est l'idée, voilà. Soli Deo Gloria, vous savez, à Dieu seul la gloire, et au fond, on se réjouit de la grâce en reconnaissant qu'on est incapable soi-même de faire quoi que ce soit. Alors, la vie spirituelle. Il s'agit avant tout pour Calvin de chercher dans l'Écriture les indications qui nous donneront, je cite, « la façon de bien régler notre vie afin que ceux qui désirent se convertir à Dieu ne s'égarent en affection inconsidérée. » Au fond, dans l'Écriture, trouver la bonne orientation pour ne pas prendre de voie de garage. C'est dit en français fondamental, ça, mais c'est un peu la même idée. Et il va bien préciser que le propos qui va être le sien, ça va être une doctrine simple. Il va parler des choses fondamentales, une règle générale, et il précise non le détail de toutes les vertus, ni une exhortation. Et ce qui est amusant, je trouve, parce que peu calviniste au sens où nous l'entendons d'habitude, il ajoute, voilà, je vais parler des choses fondamentales, je ne vais pas parler du détail des vertus ni des exhortations, pour cela, je vous renvoie, et alors ça, on ne s'y attend pas fondamentalement, aux homélies des anciens docteurs, c'est-à-dire à leurs sermons populaires. Donc ça veut dire, si vous voulez être édifié, moi je vous parle des choses fondamentales, et si vous voulez être édifié, ben lisez les prédications des pères de l'Église. Je ne sais pas si beaucoup de lecteurs réformés ou protestants après sont plongés dans les prédications des pères de l'Église à l'époque, je doute, mais en tout cas, bah, ils renvoient là. Et le point de départ, c'est l'exhortation à la sanctification. Être saint car Dieu est saint. L'Écriture nous enseigne que cette sainteté, je cite, l'Écriture nous enseigne que cette sainteté est la fin de notre vocation, à laquelle nous avons toujours à regarder si nous voulons répondre à notre Dieu. Car quel besoin était-il que nous fussions délivrés de l'ordure et pollution en laquelle nous étions plongés si nous voulons toute notre vie nous vautrer en elle ? Donc, il ne s'agit pas de dire simplement « je suis pardonné », mais il s'agit d'être aussi libéré du péché pour expérimenter véritablement la vie nouvelle. Il ne faut donc surtout pas que la justification par la foi devienne un point d'arrivée, mais soit le point de départ d'une sanctification, le point de départ d'une transformation. Même si cette justification va rester tout au long de la vie le moteur du salut et le moteur aussi de la vie chrétienne. Et le modèle et le chemin de cette sanctification, c'est le Christ. Je cite ce passage que j'ai... Voilà. Vous avez sur votre texte, « Dieu s'est réconcilié avec nous en son Christ. Aussi, il nous a constitués en lui comme un exemple et patron auquel il faut nous conformer. » Le patron, ce n'est pas le patron de l'entreprise, c'est mesdames le patron de la couture, c'est le modèle. « Christ, nous réconciliant avec Dieu son Père, nous est donné comme un exemple d'innocence duquel l'image doit être représentée en notre vie. » Donc au fond, la sanctification est l'imitation de Jésus-Christ, on pourrait dire. Prendre le Christ comme modèle de ce qui va grandir, de ce qui va se développer en nous. Et toute spiritualité, et ça il insiste très fortement, toute spiritualité est d'abord une doctrine de vie et pas une formule à répéter. L'important c'est pas d'avoir le discours orthodoxe, les bonnes paroles qu'il faut dire, mais c'est d'avoir la vie transformée. Et il a ce texte qui est un très beau texte qui dit ceci, « Ce n'est pas une doctrine de langue que l'évangile, donc de parole simplement, mais de vie. Il ne doit pas seulement comprendre d'entendement, donc d'intelligence et de mémoire, comme les autres disciplines, mais il doit posséder l'âme et avoir son siège et réceptacle au profond du cœur, autrement il n'est pas bien reçu. Nous avons bien donné le premier lieu à la doctrine en matière de religion, d'autant qu'elle est le commencement de notre salut, mais il faut aussi, pour nous être utile et fructueuse, elle entre entièrement au-dedans du cœur et montre sa vertu en notre vie, voire même qu'elle nous transforme en sa nature. » Donc, nécessité de la théologie, d'abord parce que l'évangile est d'abord une parole qui nous est adressée, donc il faut que cette parole soit juste pour que nous recevions quelque chose de juste, Mais cette parole doit descendre dans le cœur. Doit devenir une expérience du cœur. C'est un peu la religion du cœur de Pascal. Hein. Il y a un peu ça. Dieu sensible au cœur aussi. Hein. Et il précise bien, voire même qu'elle nous transforme en sa nature. Cette parole, finalement, elle va nous transformer. Et là aussi, je dirais, autant la tradition réformée se hérisse quand elle entend le mot théosis dont on parlait tout à l'heure, ou déification, etc., autant finalement être transformé dans la nature de ce qu'on est en train de recevoir, c'est quand même pas si loin que ça, c'est au fond une autre manière de dire la même chose. Alors, un autre point absolument fondamental chez Calvin, mais on pourrait dire dans la spiritualité chrétienne, et on pourrait dire encore plus dans le Nouveau Testament et dans la parole du Christ, hein, c'est le renoncement à soi-même. Le commencement de tout, c'est l'offrande de soi-même à Dieu, comme Paul nous y invite, vous vous rappelez, dans le début de Romains 12. Hein, offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, spirituel, conforme, etc. Cette offrande de soi-même à Dieu précède le renouvellement de l'intelligence, toujours dans le texte de Paul. Et Calvin l'exprime en des termes que, je pense, là aussi, n'auraient pas renié certains des grands auteurs spirituels du passé. Il dit ceci, « Ainsi que ce soit là notre premier degré de nous retirer de nous-mêmes, afin d'appliquer toute la force de notre entendement, donc de notre intelligence, au service de Dieu. J'appelle service, non pas seulement celui qui gît en l'obéissance de sa parole, mais celui par lequel l'entendement de l'homme, étant vide de son propre sens, se convertit entièrement et se soumet à l'Esprit de Dieu. » Juste un mot là, peut-être un mot général pour m'excuser de la difficulté de certaines citations. La difficulté, c'est que, au fond, la chance qu'ont les luthériens, je trouve, c'est que Luther a écrit en allemand. Et donc, quand vous traduisez de l'allemand en français, vous traduisez en français courant. Le problème, c'est que les gens qui publient Calvin, certains considèrent que la langue de Calvin est tellement admirable. C'est vrai que c'est un des premiers auteurs de la langue française presque contemporaine. C'est avec Pascal que la langue française va devenir, je dirais, celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est déjà... Alors, ils disent que c'est tellement magnifique qu'il ne faut surtout pas y toucher. Ouais. Et quand on le modernise, on le modernise légèrement. Donc on va garder paradoxalement, alors que ça a été écrit en français, des tournures de phrases qui quelquefois rendent pour le francophone contemporain le texte plus difficile à comprendre que si vous lisiez un père grec ou un anglais ou un allemand qui sont traduits dans un français. Bon. Mais je reviens sur notre texte, sur le renoncement à soi-même. Donc le premier élément, c'est de se retirer de soi-même afin de s'engager entièrement au service de Dieu. Et il dit ceci, le service de Dieu, ce n'est pas simplement celui qui réside dans l'obéissance à la parole, mais celui par lequel l'intelligence de l'homme étant vide de son propre sens, se convertit entièrement et se soumet à l'Esprit de Dieu. Et là, au fond, on retrouve quelque chose qui est hyper classique dans la spiritualité chrétienne. Hein. C'est au fond le détachement de soi-même, l'abandon de soi-même pour laisser la place à l'esprit. Au contraire, continue-t-il, la philosophie chrétienne, et pour lui la philosophie chrétienne ou la théologie c'est pareil, hein, veut que la raison cède et qu'elle se retire pour laisser la place au Saint-Esprit, pour donner lieu au Saint-Esprit, et être dompté sous sa conduite pour que l'homme ne vive plus de soi, mais est en soi et souffre Christ vivant et régnant. C'est amusant, c'est un très beau livre sur la spiritualité de Maître Eckhart qui s'appelle « Souffrir Dieu ». Et finalement, là, on trouve « Souffrir Christ », c'est au fond la même idée, je crois. Hein. Au fond, laisser la place au Saint-Esprit, être dompté, donc dominé par la conduite de l'Esprit, pour que l'homme ne vive plus lui-même, mais qu'il ait le Christ en lui, hein, que c'est plus lui qui vive, mais que c'est Christ qui vive en lui, et qu'il souffre Christ vivant et régnant. Hein? Et dans ce souffrir, il n'y a pas simplement la souffrance au sens de la douleur, mais au sens de la passivité. Hein? C'est accueillir finalement pleinement et supporter pleinement la domination du Christ. Donc ce renoncement à soi, c'est une manière de laisser la place à l'Esprit et par là au Christ lui-même. Il n'y a pas de distinction. Et c'est vrai que la pneumatologie des réformateurs, comme il vous a été dit tout à l'heure, la doctrine de l'Esprit des réformateurs, elle est légère, elle est secondaire, elle est, voilà. Mais c'est toujours le Christ qui est quand même fondamentalement présent. Donc il ne s'agit pas seulement d'une obéissance à un commandement, mais il s'agit de l'abandon radical de sa vie entre les mains de Dieu, et il s'agit d'une transformation intérieure. Et c'est elle qui suscitera, dans un deuxième temps, l'obéissance et la recherche en toute chose de la volonté de Dieu et de la gloire de Dieu. Alors, on sait que le centre de la pensée de Calvin, c'est la souveraineté de Dieu. C'est ça le cœur. On pourrait dire, autant le centre chez Luther, c'est la justification par la foi, autant le centre unificateur, on pourrait dire, de la théologie, c'est le soli Deo Gloria, c'est la souveraineté de Dieu. Rien n'est, rien n'existe, rien ne survient sans la volonté de Dieu. Alors, on va dire, ça c'est très calviniste, c'est vrai, mais il faut quand même reconnaître qu'il n'a rien inventé à la matière, même s'il va peut-être accentuer certains traits, c'est très augustinien. Et la réforme, que ce soit Luther ou Calvin, est quand même très largement un retour à saint Augustin. Et autant dans l'histoire, il y a plusieurs saint Augustin, je veux dire, il y a plusieurs périodes, comme Picasso, vous savez, vous avez plusieurs périodes. Saint Augustin, c'est un peu la même chose, il y a plusieurs périodes dans la pensée de saint Augustin, mais au fond, à la fin de sa vie, quand il va y avoir ce débat avec Pélage, donc ce moine irlandais, si je ne me trompe, qui lui, au fond, est beaucoup plus optimiste et qui croit que l'homme est capable, par lui-même, de faire le bien et finalement d'obéir. Pélage est quelqu'un qui est un moine pieux et qui croit que l'homme est capable, en y mettant le paquet, d'obéir au Seigneur et de vivre le sermon sur la montagne, on pourrait dire. Et pour Augustin, c'est l'horreur absolue, ça. Parce que c'est enlever à Dieu la gloire. Et donc, il va insister fortement, l'Augustin du dernier temps de sa théologie, sur la prédestination absolue. Donc c'est Dieu qui, puisque l'homme est incapable de rien, puisque le péché est absolument radical et ne permet en aucune manière à l'homme de se sauver, puisqu'il y a des gens qui sont sauvés et qu'il y a des gens qui ne seront pas sauvés, puisqu'il y a des gens qui ont la foi et des gens qui ne l'auront pas, c'est donc que Dieu, dans sa grâce, accorde à un certain nombre le salut en les prédestinant. Ça, c'est déjà saint Augustin. Et puis, au Moyen-Âge, l'immense théologien du Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin, même s'il est plus nuancé, plus complexe, etc., il dit quand même la même chose, et il reprend massivement tout ça. Ce qui fait que quand Luther parle du self-arbitre, donc le contraire du libre-arbitre, mais de l'arbitre interne esclave, en quelque sorte, ou quand Calvin parle de la prédestination, autant ça nous choque, nous, aujourd'hui, souvent, pour beaucoup en tout cas, autant, à l'époque, c'est pas quelque chose de radicalement nouveau. Simplement, il va durcir le trait. Parce que le paradoxe, c'est que cette dimension-là, c'est la seule partie que le catholicisme, officiellement, chez Augustin, ne va pas accepter. Au fond, saint Augustin, pour la tradition théologique catholique, c'est l'art occidental, donc, c'est la référence avec un grand R. Vous devez être en accord avec saint Augustin. Et si vous dites le contraire de saint Augustin, il faut que vous prouviez que saint Augustin disait aussi le contraire de saint Augustin. Il faut que vous soyez en accord avec saint Augustin. Avec les pères de l'Église, vous savez, c'est souvent comme ça. Ils ont dit tellement de choses qu'on arrive toujours à trouver dans le foisonnement de leur œuvre à justifier ce qu'on pense. Mais ce qui est intéressant, c'est que autant pour le catholicisme, saint Augustin, c'est la référence, autant la seule partie de saint Augustin qui ne va jamais passer comme doctrine complètement reçue dans le catholicisme, c'est la prédestination radicale. Le catholicisme va toujours garder une tension, j'aurais tendance à dire assez bibliquement, entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'être humain. Il y a ces deux éléments qu'il va toujours garder. Le catholicisme va toujours garder l'accent sur le libre arbitre, sur la capacité de l'homme, au fond, tragique, en l'occurrence, de dire oui ou de dire non. Alors là, Calvin et Luther aussi avant lui, vont pousser saint Augustin, vont tirer les lignes, tirer les traits encore plus loin, par souci de la gloire de Dieu, par souci de la souveraineté de Dieu. Et en même temps, chez Calvin, il n'arrête pas de parler de la responsabilité humaine. Paradoxalement, on pourrait dire. Chez Calvin, la prédestination n'empêche pas, mais ce paradoxe me paraît biblique aussi, hein, la prédestination n'empêche pas la responsabilité de l'individu. Parce qu'il trouve l'un et l'autre dans l'Écriture, il n'hésite pas à les affirmer ensemble, là où la tendance de beaucoup serait de gommer l'un des termes. Alors on peut d'ailleurs considérer que dans sa doctrine de la prédestination, je pense que Calvin a probablement privilégié la cohérence rationnelle, mais ça c'est la grande tentation de tous les dogmaticiens, de tous les théologiens, la cohérence rationnelle, le fait que ce soit cohérent, juste, logique, il a privilégié ça par rapport à la rugosité, j'ai envie de dire, de la révélation biblique, et peut-être de la dialectique biblique, où le même Jean ou le même Paul sont capables, à quelques chapitres d'intervalle, dans le même texte, d'affirmer deux choses voilà, qui pour nous, ne paraissent pas nécessairement tout à fait compatibles. Mais en même temps, il faut garder présent à l'esprit que le calvinisme va souligner, le calvinisme de Calvin va souligner très fortement la responsabilité humaine. Et là, il y a peut-être un mot qu'on peut dire sur cette, une évolution du calvinisme entre la pensée de Calvin sur la prédestination et puis la tradition calviniste. Je vous donne juste un exemple, il me semble assez typique. Si vous prenez l'institution chrétienne, on va vous parler de Dieu, de la révélation, de la création, du péché, du salut, donc de la christologie, etc. Et ce n'est qu'au troisième livre, une fois qu'on a parlé de tout ça et du salut, que Calvin va parler de la prédestination. C'est pas l'élément clé, c'est un élément qui arrive après tout un tas de choses. Alors que si vous prenez les grandes confessions de foi calvinistes, et je pense peut-être à la plus radicale, qui est la confession de Westminster, qui est la grande confession calviniste anglo-saxonne, anglaise d'abord, qui va aussi aller aux États-Unis ensuite, là, au tout début de la confession, la souveraineté de Dieu est posée, et Dieu, avant même penser à la création, à la chute, au salut, Dieu dans sa grâce a de toute éternité déterminé pour manifester sa gloire, qu'un certain nombre de personnes seront sauvées, pour manifester sa justice, qu'un certain nombre de personnes seront perdues, en quelque sorte. Donc vous mettez la prédestination comme sommet, fondement de tout. Et là, il y a quand même une évolution, je dirais, dans la sensibilité. Calvin avait un caractère, me semble-t-il, plus nuancé et peut-être plus équilibré, même si, comme beaucoup d'auteurs en période de combat, la polémique l'a quelquefois amené, comme c'était le cas de Saint-Augustin, hein, à radicaliser, me semble-t-il, probablement au-delà de ce qui était, à mes yeux, en tout cas, sain et nécessaire, ses positions. Mais il faut quand même se rappeler que c'est quand même relativement facile à dire quand on est tranquillement en train, je dirais, de réfléchir à la théologie dans son cabinet, ou quand on est en train de, comme Karl Barth, d'écrire cette... Encore que Karl Barth, non, pardon, je retire l'image de Karl Barth, parce que lui aussi, c'est dans un contexte douloureux. Mais voilà, quand on pense simplement à ce qu'on va dire à ses étudiants, c'est une chose. Quand on est en pleine réforme, ou pour Karl Barth, avec le nazisme, c'est-à-dire quand on est face à une situation extrêmement difficile, quelquefois on tire des lignes au-delà de ce que l'équilibre aurait nécessité. Je ne sais pas ce qu'en penserait Linda, mais je dirais que il y a une certaine radicalité, par exemple, dans la confession anabaptiste de Schleitheim, qui est aussi que quand elle parle du monde, le monde, c'est le monde qui est en train de brûler, de noyer, de torturer les anabaptistes. Si c'est un ménonite moderne, américain, qui aujourd'hui réfléchit paisiblement aux conséquences, voilà, ça ne va pas être de la même manière. Donc, là aussi, il faut penser que la théologie, la spiritualité, etc., ça ne tombe pas du ciel. C'est toujours vécu, pensé, dans un contexte historique donné, et voilà, et chaque théologie ou chaque spiritualité porte les marques, les traces du contexte dans lequel elle a été conçue. Donc ce renoncement, qui est avant tout devant Dieu, va également se manifester à l'égard des hommes. Et à l'égard des hommes, ce détachement, ce renoncement à soi-même va se manifester par l'amour et par le service du prochain. Et alors il y a un très beau texte que je vous ai mis là, je pense sur le deuxième côté de la page, que je cite parce que, voilà, on ne pense pas spontanément dans ces catégories-là quand on pense à Calvin. Il dit ceci, « Il nous est aussi demandé de ne point regarder les vices des autres, mais de les couvrir. Non pas pour les entretenir par flatterie, mais pour que nous n'insultions point à celui qui a commis quelque faute, vu que nous lui devons porter amour et honneur. De là, il adviendra qu'envers quiconque que ce soit, à qui nous ayons affaire, non seulement nous nous porterons modestement et modérément, mais aussi en douceur et amitié. De même, on ne parviendra jamais par une autre voie à la vraie mansuétude qu'en ayant le cœur disposé à s'abaisser et à honorer les autres. » C'est vrai que quand on pense à une image de Calvin telle qu'on... Elle est souvent véhiculée quand même, hein, le patron de la ville de Genève. Voilà, on n'imagine pas exactement la même chose. Mais au fond, ce qu'il y a me paraît tout ce qu'il y a de plus évangélique au sens premier du terme évangélique. Hein. Nous n'avons pas à regarder au mérite des hommes, et donc au mérite ou à l'absence de mérite des hommes, mais il nous faut considérer l'image de Dieu en tous, à laquelle nous devons honneur et amour. On pourrait dire, c'est voir le Christ dans l'autre, hein, ne pas regarder donc aux fautes. Et c'est particulièrement vrai dans l'amour fraternel, puisque cette image, elle est restaurée par l'Esprit. Mais c'est également sur cette base, souligne Calvin, qu'il faut aimer nos ennemis. Alors, aimer ses ennemis, ce n'est pas simple, parce que les gens à qui Calvin écrit, souvent, sont des gens qui sont en pleine guerre, soit qui sont persécutés, soit qui sont en guerre de religion, ce qui n'est pas exactement la même chose. Hein, mais... Et donc la dimension de la souffrance, elle est très présente. Alors il y a un chapitre très important qui s'appelle « De souffrir patiemment la croix ». Dans la spiritualité de Calvin, il y a une dimension qui est très importante, c'est la patience. De même que le Christ a souffert à cause de son obéissance, de même nous sommes nous-mêmes appelés à souffrir comme lui et avec lui. Et notre souffrance sera une sorte de communion à la croix du Christ. Cette souffrance, pour Calvin, elle a une dimension pédagogique. Parce qu'au fond, c'est à travers elle, à travers... Et là, je reprends une tradition chrétienne, je dirais, très classique. Hein. C'est à travers cette souffrance que nous pouvons grandir. Vous savez, c'est ce que dit Paul, par exemple, dans l'Épître aux Romains. Nous nous glorifions même dans la tribulation, sachant que la tribulation produit la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Hein. Au fond, il y a cette découverte... Cette affirmation de Calvin, une affirmation très chrétienne, c'est que l'être humain est fichu de telle manière que c'est rarement dans le bonheur, la réussite et la joie qu'il apprend à grandir. Et je crains que ce soit malheureusement assez pertinent. On s'en passerait au fond, mais je crois qu'il n'a pas vraiment tort. Et donc tout un chapitre porte sur la persécution pour la justice. Alors il dit ceci, « J'appelle persécution pour la justice non seulement quand nous souffrons pour défendre l'Évangile, mais aussi quand nous souffrons pour maintenir toute cause équitable. Hein, » vous savez, c'est heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ce n'est pas simplement pour l'Évangile, mais c'est aussi ceux qui sont persécutés pour une cause juste. « Soit donc que pour défendre la vérité de Dieu contre les mensonges de Satan, ou bien pour soutenir les innocents contre les méchants et empêcher qu'on leur fasse tort et injure, il nous faille encourir la haine et l'indignation du monde, d'où nous venions en danger de notre honneur ou de nos biens ou de notre vie, qu'il ne nous fasse point de mal de nous employer jusque-là pour Dieu, et que nous nous réputions malheureux quand de sa bouche il nous déclare être bienheureux. » Je vous traduis ça si vous voulez en français plus courant. C'est vrai que c'est bon. Pas si simple. Donc il dit, que ce soit pour défendre la vérité de l'évangile contre l'hérésie. Hein, pour les réformateurs, les deux hérésies monstrueuses, hein, à ma droite, c'est l'abomination papiste, hein, à ma gauche, c'est l'abomination anabaptiste. Hein, toutes les horreurs possibles qu'on peut imaginer. Alors, que ce soit pour défendre la vérité de l'évangile contre les hérésies, ou etc., bon, ou être persécuté pour la vérité, ou bien que ce soit pour défendre le pauvre, la veuve et l'orphelin, on pourrait dire, hein, voilà, pour défendre ceux qui sont frappés par une injustice, il nous faut courageusement, au fond, prendre leur défense, au risque d'accepter de se faire haïr par le monde, et au risque de voir non seulement notre honneur en danger, mais nos biens et notre vie. Et il ajoute cette phrase qui pourrait être quand même très anabaptiste. Hein. Vous savez, il a épousé une veuve d'anabaptiste. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a eu des influences. Mais au point, dit-il, et peut-être que l'autre influence, c'est l'évangile. Ça peut aider quelquefois quand même, les références communes. Mais et il ajoute en disant, ne prenez pas, qu'il ne nous fasse point de mal de nous employer jusque-là pour Dieu. Donc ne vous plaignez pas de souffrir pour Dieu ou pour la justice, alors que dans la bouche même du Christ, dans les béatitudes, on est dit bienheureux si on est persécuté pour la justice. Et Calvin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne prône nullement une sorte de dureté stoïcienne. Vous savez, le stoïcisme, à l'époque de la Renaissance, retrouve une nouvelle jeunesse. Hein, et beaucoup de gens sont, comme aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de gens sont très séduits par Épictète, Sénèque, etc. Toute cette philosophie d'une certaine donc sagesse humaine qui est une protection, on pourrait dire, contre la souffrance. Hein, c'est capable de se blinder en quelque sorte, de se protéger pour dominer la souffrance. C'est une école de liberté aussi, on pourrait dire. Et si j'en parle, c'est que un des premiers écrits de Calvin porte sur Sénèque, grand philosophe stoïcien. Mais là, pour Calvin, il est juste, à l'image de Jésus, de manifester notre souffrance. Il ne s'agit pas simplement de prendre une distance. Hein. La douleur, les larmes, voilà, ça fait partie de la réalité. Mais le fond de l'attitude chrétienne demeure, ou doit demeurer, un acquiescement aussi joyeux que possible à la volonté de Dieu, à cause de la certitude que le Seigneur tient toutes choses et donc notre vie dans ses mains et nous garde dans son amour. Au fond, s'il fallait trouver un verset pour illustrer ça, hein, c'est quand même cette idée « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est mystérieusement, dans la mesure où il y a cette foi dans la certitude de la souveraineté de Dieu. Rien n'arrive, pas un cheveu ne tombe de notre tête, pas un oiseau, un moineau ne tombe par terre, sans que Dieu, non seulement soit au courant, mais là dans la pensée de Calvin, sans que Dieu le veuille d'une certaine manière. Et donc il y a une confiance radicale là-dedans. Alors, c'est très classique, Augustin en redit exactement la même chose. Et la spiritualité chrétienne a développé ça terriblement. Je lisais il n'y a pas longtemps, chez Maître Eckhart, le quatrième sermon de Maître Eckhart, un passage comme ça, sur la souffrance, où on disait, mais au fond, voilà, il faut se convaincre que tout ce qui arrive est le mieux. Puisqu'on a, c'est la même idée, on a cette double certitude que Dieu nous aime et que Dieu est souverain sur toute chose. Donc finalement, ce qui arrive de douloureux, bien sûr, quand il n'arrive que des choses agréables, c'est très facile à penser ça, mais quand il arrive des choses très douloureuses, au fond, ben voilà, il faut savoir que ça vient de Dieu. Alors, c'est quelque chose qui est tellement contraire à notre mentalité d'aujourd'hui, hein, notre vision d'une vie paisible sans le moindre problème, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pensable, je crois, dans le passé. Parce que j'ai l'impression que là, il y a un décalage culturel qu'on a du mal à imaginer. Au fond, l'occidental moyen, je dis bien l'occidental, hein, j'exclus tout à fait l'Afrique, etc., parce que là, ils vivent pas dans les mêmes catégories. Mais l'occidental moyen, il part du principe que si tout va bien, il est protégé. Hein, il y a la médecine, il y a les assurances, il y a tout un tas de choses. Au point, je vois en France, c'est typique, que s'il y a un accident qui survient, tout de suite, il faut chercher des responsables. Il y a quelqu'un qui est responsable et qui doit être puni, ne serait-ce que pour rassurer les autres. Alors que jusqu'à très peu de temps, finalement, le côté aléatoire de la vie, le côté fragile de la vie, c'était l'expérience toute bête et universelle. Quand une femme mettait un enfant au monde, le risque de mortalité et de l'enfant, mais et de la mère, était quand même énorme. Dieu merci, on a oublié ça, mais voilà. Le risque de mourir, je dirais, de maladie, de guerre, de tout ce qu'on peut imaginer, voilà, la fragilité de l'être humain était sensible. J'ai l'impression que depuis un certain nombre de décennies, je dis, pas de siècles, hein, il n'y a pas tellement, mais nous appliquons à éliminer le plus radicalement possible, le sentiment, la conscience de cette fragilité. Hein, nous sommes des êtres immortels, normalement, nous percevons comme ça, qui malheureusement, parfois, par hasard, et manque de peau, meurent. Mais enfin, normalement, nous ne sommes quand même pas des gens mortels. Alors qu'à l'époque, c'était classique, je crois. Et l'apprentissage, au fond, de l'acceptation de la volonté de Dieu. Vous avez un livre d'un jésuite, Jean de Caussade, qui est entièrement fondé là-dessus, l'abandon de la providence divine. Et alors, dans cette même démarche, Maître Eckhart dit, mais au fond, on va me poser la question, mais qu'est-ce qui me prouve que ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu ? Réponse massive, mais parce que ça arrive. Puisque Dieu est souverain, si ça t'arrive, c'est que c'est ce que Dieu veut pour toi. Et si c'est ce qui t'arrive, alors c'est ce qui est le mieux pour toi. C'est pas juste le destin, un peu comme le stoïcien dirait, voilà, ça m'arrive, donc j'accepte. Je suis bien forcé. Non, c'est pas ça. C'est voir que finalement, ce qui m'arrive, avoir la certitude que ça concourt à mon bien à cause, de manière mystérieuse et tordue. C'est-à-dire que je distingue pas toujours en quoi, d'une manière qui est fondée dans la confiance en Dieu. Au fond, la version moderne de ça, c'est la puissance de la louange. Hein. Vous savez, c'est un peu ça quand même, hein. c'est la même idée, mais qui aujourd'hui nous paraît un peu, pas normal, mais en tout cas, alors chez Calvin c'est quelque chose de très fort, et ça donne, je crois que ça a un caractère, il y a une difficulté, alors pour nous je pense plus grande encore que dans le passé, une difficulté à rentrer dans cette perspective, mais ça a un caractère profondément libérateur, je crois, pour des gens qui vivent dans des périodes de persécution, de guerres de toutes sortes, d'épidémies, vous savez, les pestes qui se répandaient dans l'Europe entière, etc., c'est des trucs très très banals. Au fond, cette certitude que Dieu, dirigeant toute chose, ce qui peut m'arriver, c'est ce qui va être bien, je vais le prendre comme venant de la main de Dieu. Alors, le traité de Calvin va se poursuivre par un chapitre sur la méditation de la vie à venir. Et ça, c'est une méditation, là aussi, très classique, d'une certaine manière, méditation sur les difficultés de la vie présente et sur la mort. Et donc, il s'agit de bien s'attacher à ne pas fuir la réalité, mais à la relativiser en quelque sorte, en la mettant en regard de l'espérance de la résurrection et de l'espérance de la vie éternelle. C'est-à-dire, oui, nous sommes sur un chemin, dans un pèlerinage de souffrance, de difficultés, etc., etc., mais n'oublions pas le bout du chemin. Hein. Regardons, levons les yeux au ciel. Hein. Vous trouvez dans le Nouveau Testament pas mal de formules du même style. Hein. C'est-à-dire, regardons vers notre espérance, regardons le Christ qui va venir, regardons les promesses qui nous sont faites, et voilà, Et là, il y a une différence. Alors, je dirais, autant notre modernité fait que nous avons une tendance, et dans certaines parties du christianisme, c'est très fort, hein, à gommer la difficulté en disant, mais finalement, à partir du moment où je deviens chrétien et où Saint-Esprit agit, je vais être beau, riche, en bonne santé, tout va marcher, la prospérité, etc. Autant là, on est aux antipodes. Hein, il y a quand même cette idée, la fidélité coûte. Et ça, l'anabaptiste, je dirais, ou Calvin, dirait de manière assez proche. Hein. La fidélité coûte, il y a la dimension de la croix, mais y a le royaume, il y a la promesse du royaume. On pourrait rapprocher ça de le dessin que Linda vous montrait, où finalement on voit la difficulté de la vie présente, hein, avec les souffrances, etc., et puis finalement l'espérance de la vie à venir. Donc, cette vie à venir, elle n'est pas à craindre, cette mort, elle n'est pas à craindre à cause de notre foi, si nous ne sommes pas éblouis par le monde visible, au point de ne plus tenir compte de l'invisible, qui en Dieu est plus réel encore. Et là, il y a quelque chose qui est aussi universel. Je dis ça chez Cavin parce qu'il en parle, mais je veux dire, on pourrait trouver ça chez des quantités d'auteurs, et je crois que c'est toujours quand même c'est toujours pertinent. C'est finalement notre difficulté à tous, je pense, en tout cas, je la ressens comme, je crains qu'il vous arrive aussi de la ressentir, de mettre en accord notre manière de sentir la réalité avec la foi que nous confessons par ailleurs. Hein? On sait bien que, mais n'empêche, voilà, on ne le vit pas forcément. Et au fond, pour Calvin, mais là encore, on est dans le très classique des exercices spirituels chrétiens, il s'agit de méditer sur la vie à venir pour enraciner dans notre conscience l'espérance chrétienne et pour pas nous laisser, en quelque sorte, obnubiler par la difficulté de la vie présente. Le dernier paragraphe porte sur la manière dont il faut user de la vie présente et de ses aides. Et alors, ce à quoi Calvin nous invite, c'est la modération. Calvin a une éthique, je dirais, de vie, qui est une éthique de la modération, qui est intermédiaire, je dirais, entre l'intempérance et l'austérité. C'est pas l'ascétisme qui va refuser les dons de Dieu, et c'est pas l'intempérance qui va se vautrer dans les biens de ce monde. Hein? C'est user de ce monde comme n'en usant pas. Alors, il va donner quatre règles pour user de la vie présente. Première règle, discerner l'auteur de tout bien et lui rendre grâce en tout. Et là, il a des phrases qui sont là aussi quelquefois étonnantes quand on pense, enfin, par rapport à la caricature de Calvin que nous avons dans la tête, et même par rapport à une certaine image qui est donnée de Calvin, bon, qui est quand même, voilà. Quand on pense à Calvin, on ne pense pas fondamentalement à la jubilation, hein, il y a un caractère un peu tristouné. Mais il a des phrases sur la beauté de la création, sur la beauté des fleurs, etc. Et si Dieu a voulu créer ça comme ça, c'est pour le plaisir de l'homme. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on s'attend à trouver, enfin que moi je m'attendais, peut-être à tort, hein, mais à trouver sous la plume de Calvin. Donc discerner l'auteur de tout bien et rendre grâce, hein, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, rendez grâce pour toute chose. Deuxièmement, user de ce monde comme n'en usant point. C'est-à-dire accepter la pauvreté, mais rester prudent dans l'abondance. C'est très paulinien, ça aussi. Hein. J'ai appris à me passer ou à profiter. J'ai appris à vivre dans telle ou telle situation. Là, chez Calvin, il y a l'idée, au fond, il faut accepter quand on est pauvre. Et puis, quand on est riche, attention, ne nous laissons pas emballer. Hein. D'où, vous savez, une certaine éthique calvinienne qui va d'ailleurs avoir des conséquences sur le plan capitaliste assez positives, hein, puisque, je dirais, quand vous allez faire des bénéfices, vous allez travailler encore plus sérieusement, et vous allez, non pas vous acheter une Ferrari, mais vous allez plutôt réinvestir tout ça, peut-être dans l'église aussi, c'est une bonne idée. Troisièmement, se considérer comme les administrateurs des dons de Dieu, des biens de Dieu. Hein? Nous ne sommes pas les propriétaires. Tout ce que nous avons reçu vient de Dieu, les biens que nous avons reçus viennent de Dieu. Si je suis pauvre, eh bien, voilà, je fais au mieux. Si je suis riche, j'utilise pour le mieux cette richesse pour Dieu et pour les frères. Enfin, et là on retrouve voilà, une position très protestante, en tous les actes de la vie, nous devons considérer notre vocation. Et la vocation, c'est toujours cette vocation chrétienne, en toute chose avoir le rappel de ce à quoi le Seigneur nous appelle. Quelques mots pour terminer sur l'accompagnement selon Calvin. Nous avons un livre qui a été consacré à ce sujet. Malheureusement, je crains qu'il soit difficilement trouvable, hein, de Jean-Daniel Benoît, qui a été un grand spécialiste de Calvin, qui a été publié en 1947, hein, c'était Calvin, directeur d'âme. Très beau texte. Il avait écrit un autre livre sur la direction spirituelle dans le protestantisme, qui était un admirable bouquin aussi, c'est dans les années 40, comme ça. Si vous tombez un jour chez un bouquiniste chez ce genre de sur ce genre de livre, n'hésitez pas à l'acheter. Et alors, la direction spirituelle de Calvin, au fond, on la connaît pas mal, grâce aux lettres. Parce qu'il a, finalement, l'Europe, Genève, là, a été le centre d'une Europe protestante. Et finalement, des tas de gens lui ont écrit, et il a écrit à des tas de gens. Et à côté d'un ministère de prédication, vous savez, Calvin fait partie de ces gens, nos anciens, à côté desquels on se dit, mais comment on arrive à ne pas plus travailler? Mais comment font-ils pour abattre... Alors vous me direz qu'ils n'ont pas la télévision, mais quand même, comment font-ils pour faire tout ce qu'ils arrivent à faire? Parce que finalement, ils publient des quantités de choses énormes, ils prêchent quotidiennement, ils enseignent quotidiennement, ils écrivent des quantités de lettres, ils gèrent tout tas de choses, mais vous lisez saint Thomas d'Aquin, il y a plein de gens dans le passé comme ça, vous dites comment ils ont fait pour arriver. Alors, ils n'avaient pas le téléphone aussi, c'était un truc pas mal, je crois. Et l'ordinateur non plus, ce qui nous prend quand même au moins autant de temps que ça nous en donne. Mais bon, donc, grâce à ces lettres, finalement, on a une idée de la manière de diriger de Calvin. Et ce qui est intéressant, c'est que cette direction, elle est avant tout biblique. Il rappelle la doctrine biblique, il exhorte, il encourage. Alors, il y a une phrase de Jean-Daniel Benoît que je crois assez juste, il dit, cette direction calvinienne, elle tend à ôter tous les subterfuges que notre chair nous met au-devant pour nous divertir du chemin que Dieu nous montre. Hein? C'est-à-dire, il aide à discerner, au fond, pour y voir clair et suivre la volonté de Dieu. Hein? Et je crois que dans l'accompagnement, je dirais, d'une autre personne, c'est quand même, c'est très ignatien d'ailleurs comme démarche, mais je dirais, c'est ça un peu l'essentiel, c'est... poser des questions pour aider quelqu'un à y voir plus clair et éviter à la personne, je dirais, de rentrer dans des impasses, des cul-de-sac, des voies de garage, etc. Alors, il me semble, pour conclure, que on pourrait faire à propos de Calvin les remarques inverses de celles que je faisais hier à propos de Luther. Je vous disais, vous savez, la pente dangereuse de Luther, pas de Luther, mais de la pensée de Luther, c'est de valoriser tellement la grâce qu'on arrive à la facilité et qu'on arrive à la grâce à bon marché. La pente de la tradition calvinienne, c'est plutôt un certain légalisme. Hein? C'est finalement retrouver un sens de la loi, un sens de l'obligation, un sens d'un comportement extérieur qui est rassurant. Et il y a une certaine tradition puritaine anglo-saxonne, hein, puritaine au sens technique du terme, là aussi c'est pas un gros mot, hein, c'est la tradition puritaine, donc calvinienne, hein, qui en même temps a été probablement une des traditions protestantes qui s'est le plus intéressée à la vie spirituelle, et je dirais même à la psychologie spirituelle, de manière très riche, mais qui en même temps a eu quand même, à certains moments, des manifestations assez lourdement légalistes. Et au fond, on retombe dans une sorte de pharisaïsme. La spiritualité calviniste, elle est avant tout centrée sur Dieu, calvinienne, de Calvin, je veux dire. Elle est avant tout centrée sur Dieu, et dans ce sens, elle ne se préoccupe pas tellement de l'individu et de ses difficultés. Il y a quand même l'idée, mais regarde au Christ. Hein. Vous savez, c'est un des problèmes qu'on trouve quand on dit, vous savez, la prédestination. Pour les gens qui croyaient à la prédestination, au XVIe, au XVIIe siècle, la prédestination était une aide. Hein? Je sais, la certitude du salut repose sur le fait que je sais que le salut ne dépend pas de moi et de mes mérites, mais de la grâce de Dieu seul. Et donc ça avait un caractère libérateur. Mais la question qui se pose après, c'est comment est-ce que je suis sûr d'être parmi les élus ? Petite question vicieuse, mais question qui n'est pas sans une certaine ombre de pertinence. Alors, dans la tradition puritaine, il va y avoir toute une psychologie, il y a des signes auxquels on va prendre conscience que finalement, oui, on est sur le bon chemin, etc. Ça, c'est très, très puritain anglo-saxon. Et ça développe toute une sensibilité psychologique et spirituelle très riche. Pas sans ambiguïté, mais riche. Alors que j'ai l'impression que chez Luther ou chez Calvin, la question aurait été beaucoup plus simple. La réponse aurait été, je crois, il me semble, là je traduis aussi, arrête de te contempler le nombril et regarde au Christ. Ne te demande pas où tu en es toi, mais fais confiance à Dieu. Décentre-toi, sors de toi-même. Ne te demande pas si... Parce que se demander si on est élu, c'est quelque part encore une manière de se demander si on est digne de quelque chose. Pour Calvin, c'est la foi en Christ qui fait que, voilà, c'est ça qui manifeste que je suis élu. C'est pas ce que je ressens, etc. Donc elle est facilement, cette spiritualité, oublie de soi. Mais alors, détachée du théocentrisme de la grâce, hein, cette spiritualité complètement centrée sur Dieu, alors elle peut mettre en avant la loi, elle peut mettre en avant la responsabilité humaine, dans une sorte de salut par les œuvres, qui n'en a pas la théologie, mais qui finalement recrée la même chose. Hein. Pas du tout théoriquement, mais pratiquement finalement, on risque de retomber dans quelque chose qui ressemble à ça. Donc d'une certaine manière, je crois que Luther et Calvin, là, sont assez complémentaires aussi dans leurs accents et leurs dangers spécifiques, et d'une certaine manière, on pourrait dire, symétriques. Je crois que ni l'un ni l'autre, en tant que pensée, après dans leur comportement, c'est une autre histoire, mais je dirais, en tant que pensée, ni l'un ni l'autre n'y tombe, mais les pentes, finalement, sont effectivement des pentes inverses. Voilà, alors les textes là qu'on peut prendre, vous savez beaucoup de choses aussi sur Calvin. Donc, sur Calvin, il y a l'institution chrétienne. Si on veut vraiment s'engager dans ce genre de lecture, c'est quand même un texte qui est accessible, qui est en français modernisé. C'est la langue de Calvin, mais un peu améliorée, au niveau de notre... c'est un peu comme quand on veut lire Montaigne. C'est ça, il y a des éditions où le français est un peu plus facile à lire que d'autres. Alors vous avez en français complètement contemporain le tout petit bouquin d'Excelsis, La spiritualité à visage humain. C'est donc ces chapitres dont j'ai parlé, c'est le traité de la vie spirituelle, on pourrait dire, de Calvin. Vous avez des petits textes qui sont très, très beaux. Instruis-moi dans ta vérité, la brève instruction chrétienne. Alors, vous avez plusieurs éditions, hein. Instruis-moi dans ta vérité, c'est le titre chez Excelsis, mais vous avez des textes plus anciens. Très beau texte aussi de Calvin. Le petit traité de la Sainte-Seine, qui a été réédité à la petite bibliothèque protestante, là aussi, de très belles choses. Le catéchisme de Genève, qui est un très beau texte. Karl Barth disait que s'il fallait garder un seul texte de la Réformation, il fallait garder celui-là, donc dire... Voilà. Un texte avec catéchisme classique et la question-réponse, hein, mais où il y a beaucoup de choses. Et la chose amusante, c'est que quand vous lisez ce catéchisme, là, il n'est pas question de prédestination. Je veux dire, là, c'est vraiment les choses fondamentales qui sont données. Et puis, alors, vous avez Bernard Cotteret, c'est lui dont je cherchais le nom tout à l'heure, qui a écrit une très belle biographie de Calvin. Et c'est lui dont je parlais, qui a aussi écrit une triple biographie de Luther, de Calvin et de Wesley dans un même bouquin, et puis ce bouquin de Jean-Daniel Benoît, mais vous avez beaucoup d'autres textes qui sont écrits sur Calvin. Voilà, je crois qu'il reste encore un peu de temps pour des questions.